Évidemment, ça prend un certain cran pour aborder le thème de guerre et paix au XXIe siècle. Mais je pense que ce que je vais essayer de dire dans une trentaine de minutes, c'est que les causes de la guerre et la base de la guerre sont beaucoup plus simples et beaucoup plus subtiles qu'on le pense habituellement. D'abord, j'aimerais commencer en disant que je crois que la paix a mauvaise presse. La paix a mauvaise presse parce qu'on conçoit la paix comme l'absence de guerre. Et la guerre, c'est quand même excitant, n'est-ce pas? C'est excitant, les gens sont des héros, il y a de l'action, enfin... la guerre, tout le monde est excité par la guerre, n'est-ce pas? On fait ce qu'on veut, n'est-ce pas? On engage des batailles, on ne sait pas quel va être l'ultime aboutissement, et puis, qu'est-ce qu'on va faire après la guerre? Bon, on va aller rentrer, on va rentrer chez nous, on va travailler dans un magasin, dans un bureau, enfin, on va faire mettre au boulot dodo, comme on dit à Paris, ok? Et puis, comparé à la guerre, c'est quand même assez banal, n'est-ce pas? Alors, je pense que, d'abord, ce qui ne va pas, c'est la conception même de la paix. Il faut concevoir la paix comme une chose qui est dynamique, pas simplement l'absence de la guerre. D'ailleurs, ce que j'essaie de montrer, c'est que la véritable paix offre les mêmes jouissances, la même excitation, le même envoûtement que la guerre, mais d'une façon constructive. Maintenant, quelles sont les causes de la guerre? Enfin, la chose la plus simple que les gens disent, c'est ben là, l'homme est égoïste, l'homme est agressif. Il prend avantage des autres, enfin, quand il peut. Donc, il a les guerres sans cesse. Il y en a des gens qui disent, par exemple, que la racine de toutes les guerres est économique, que ça peut être au nom de la religion ou au nom d'une idéologie qu'on fait la guerre, mais en fait, en fin de compte, c'est toujours économique. Parce qu'on cherche un avantage matériel à initier la guerre. Alors, c'est évident que l'homme est capable des plus grandes cruautés. Ça, on n'a pas à démontrer ça, on le sait. Mais la question, est-ce que l'homme est capable de maintenir une paix dynamique? Alors, moi je pense que oui, et je pense qu'on peut voir ça en examinant les causes que je qualifierais de rationnel de la guerre. Autrement dit, je prétends que la guerre a des causes rationnelles, que ce n'est pas simplement une pulsion irrationnelle qui éclate, etc., etc., que c'est l'irrationalité. Je pense qu'au contraire, il y a une logique inlassable qui sous-tend la guerre. Et un autre thème que je veux aborder un peu, c'est la progression de la conception de la guerre au cours des siècles, parce que, justement, ce soir, je veux parler un peu de guerre et paix au XXIe siècle. Alors, pour prendre mon thème, je remonte au moins jusqu'à Platon et Socrate, qui ont été parmi les premiers philosophes à annoncer le principe suivant, très simple, que tout malfaiteur, tout agresseur fait plus de mal à lui-même qu'à ses victimes. Socrate, Platon, Aristote, tous les grands philosophes et d'ailleurs tous les grands prophètes, Moïse, Jésus, ont dit la même chose, Mohammed aussi. Que l'agression, c'est-à-dire d'imposer sa force physique gratuitement sur les autres. Je ne parle pas de la défense, etc. La défense légitime et tout ça. Mais l'utilisation de notre pouvoir d'être pour s'imposer arbitrairement sur les autres, pour, dans un but égoïste, du non, être l'auteur des cruautés envers les autres de façon gratuite, est un mal moral. Mais que le malfaiteur, l'auteur de cette agression, fait toujours plus de mal à lui-même qu'aux autres. Alors, le problème, donc, je suis d'accord avec Socrate et Platon là-dessous. Je suis absolument d'accord que le malfaiteur fait plus de mal à lui-même qu'à ses victimes, mais le problème, c'est que le retour des mauvaises actions n'est pas toujours perceptible immédiatement par l'auteur de ces actions. Alors, je pourrais même qualifier cette loi de retour des mauvaises actions, c'est essentiellement la troisième loi de Newton, n'est-ce pas? Enfin, à chaque action, il y a une réaction. Autrement dit, il a des conséquences objectives à nos actions. Bien sûr, il a des conséquences subjectives, on a des pensées, des réflexions et tout ça suite à nos actions, mais en suivant Socrate et Newton, je dirais que, plus que ça, il a des conséquences objectives de nos actions. Il a des conséquences objectivement positives et objectivement négatives. Et chaque fois qu'on fait un choix délibéré, un choix en connaissance de cause, qui aura des conséquences négatives sur d'autres êtres humains, alors on fait de mal à soi-même. On fait un mal moral, psychologique, émotionnel et tout. Vous savez, il y a une école, une université internationale Baha'i à Landeg en Suisse. Et cette université a animé un projet de réconciliation dans les écoles en Bosnie depuis 2 ans. Et je connais très bien la personne qui est en charge de ce programme, parce que c'est mon beau-frère d'ailleurs, et puis j'ai aussi enseigné des cours à Landeg. Et on s'est rencontrés à Londres, il avait une conférence sur la moralité et la science à Londres au mois de février, quoi, de ces années. Et entre autres, on avait débattu à un certain moment donné la question de la peine capitale dans les sociétés. C'est-à-dire lors de cette conférence. Et j'avais dit la chose suivante. J'ai dit, je suis contre la peine capitale. Pas parce qu'il n'y a pas des gens qui méritent la peine capitale, il y a des gens qui méritent plus que la peine capitale, il y a des gens qui méritent qu'on fasse tout ce qu'on peut faire à ces gens-là. Les gens qui ont abusé des enfants, qui ont, etc., etc. Mais je dis, je suis contre la peine capitale à cause de ce que ça fait à la société qui l'applique. Et je suis très sérieux. Ça fait plus de mal à la société qui l'applique que ça fait du bien en punissant des victimes qui sont habituellement des fous, des psychopathes, etc. Qui doit, bien sûr, la société doit être protégée de ces gens-là. Mais il y a des façons de faire ça sans les tuer. Alors, justement, mon beau-frère est venu me rapprocher après ça. Il a dit, tu as absolument raison. Il dit, toute mon expérience en Bosnie, il dit, dès qu'un être humain prend la vie d'un autre être humain, il a quelque chose d'irréversible qui se passe dans Il dit, on voyait ça dans les yeux des gens. Il dit, je peux avoir une chambre, enfin, de gens, une réunion. Je pouvais regarder les yeux des gens et je savais qui avait tué des gens et qui n'avait pas tué des gens. Il y a quelque chose d'irréversible, il y a quelque chose d'inéchappable qui se passe au sein d'une personne qui délibérément, consciemment prend la vie d'un autre être humain. Maintenant, pour comprendre le contexte social de ce principe, c'est-à-dire le principe, c'est toujours le principe que l'agresseur fait plus de mal fini, si vous voulez, comme je dis, ce n'est pas nécessairement apparent mais, au moment même, mais finit par faire plus de tort à lui-même qu'à ses victimes. Pensons aux fables suivantes, n'est-ce pas? En fait, j'invente une petite histoire. On se situe, mettons, il y a 1000 ans avant l'ère moderne, et supposons qu'il a un roi puissant, il a un roi très puissant, et il dit, ma foi, je vais, il a le pays à côté, ils sont très productifs, les femmes sont jolies, je pense que je vais les envahir, je vais faire des esclaves, des hommes, je vais profiter de leur labeur, je vais prendre leurs produits, je vais utiliser les femmes de différentes manières, etc. Je suis plus puissant qu'eux, donc je suis capable de les dompter. Alors pourquoi est-ce que je ne le ferais pas? Alors le sage dit au roi la chose suivante. Il dit, tu as raison. Tu es plus fort. Si tu les envahis, tu vas gagner. Tu vas t'imposer. Ça va t'apporter des gains matériel à court terme. Mais il aura d'autres conséquences. Vous allez semer la haine contre vous et votre peuple chez ces gens-là. Cette haine va être viscérale, ça va se transmettre de génération en génération. Ils vont boire la haine de vous dans le lait de leur mère et ils ne vont jamais rester content, tant et aussi longtemps qu'ils ne sont pas arrivés à se soulever contre vous. Pourquoi pas entrer dans les relations réciproques avec ces gens-là? Vous pouvez profiter de leur productivité, ils peuvent profiter de nous, on peut faire des échanges avec eux, on peut faire la commerce, on peut faire des ententes avec eux, pourquoi pas? Peut-être que ça apporterait un peu moins de gains à court terme, mais à long terme, ça serait infiniment plus profitable pour tout le monde. Parce qu'eux, ils vont jouir de la chose, il n'y aura plus la haine et tout ça, il n'y aura plus toute l'énergie que vous devez dépenser pour les maintenir soumis et tout ça. Et vous allez quand même tout de suite profiter des échanges avec ces gens-là. Et le roi répond la chose suivante, il dit, peut-être tu as raison. Mais je ne suis pas sûr que tu as raison. Et de toute façon, je ne serai pas là quand ce fameux retour arrivera. Ça serait dans plusieurs générations, parce que moi je suis là maintenant et je suis assez fort pour les denter. Donc c'est à mon avantage, à court terme si vous voulez, le court terme c'est ma vie, c'est à mon avantage de les envahir, de les rendre en esclavage, etc. Donc il le fait, et ça arrive exactement comme le sage a dit, c'est-à-dire il a un gain à court terme, mais dans plusieurs générations, il a un soulèvement, et puis tout le royaume est détruit, tout le royaume éclate. Bon, ça c'est une fable que j'invente pour illustrer un certain principe. Et ce principe-là, c'est que le retour de cette agression, le temps de retour était plus long qu'une génération. Donc, l'auteur de l'agression n'était pas là pour apprendre les conséquences objectives de son action. Maintenant, je cite un exemple. Je cite un exemple qui n'est pas une fable, qui est historique. Socrate, Platon et Aristote sont considérés comme parmi les plus grands, sinon les plus grands philosophes de tous les temps. Platon, Socrate enseignait à tout le monde dans les rues. Il a été remercié de ses services par le gouvernement d'Athènes. Platon avait ouvert une académie. Il avait enseigné d'autres philosophes. Il avait des élèves. Mais Aristote a dit, je vais faire mieux que ça. Nous avons toute cette sagesse que nous avons accumulée, nous les philosophes. Alors moi, je vais trouver un grand protégé, quelqu'un qui a du vrai pouvoir, et je vais l'entraîner dans la philosophie. Alors il a pris comme protégé Alexandre de Macédon. Okay? Et il est devenu l'élève d'Aristote. Et Aristote l'a instruit dans toute la sagesse de la philosophie grecque, etc. Et qu'est-ce que Alexandre de Macédon a fait? Eh bien, tout simplement, il a conquis tout le monde connu à l'âge de 23 ans. C'est Alexandre qui, c'est la chose très bien connue, qui pleurait parce qu'il n'avait plus aucun, il n'avait plus de monde à conquérir. Il n'avait rien de plus à conquérir. Il avait conquis tout le monde connu de l'époque à l'âge de 23 ans. Et donc, il est tombé dans la grosse dépression parce qu'il avait été entraîné pour conquérir. Il n'avait plus rien à conquérir. Il avait tout conquis. Donc, sa vie n'avait plus de sens. Et le fameux retour est arrivé. La génération après, il avait trois fils. Et ces trois fils se sont bataillés entre eux et tout ça. Et puis, tout son royaume a éclaté. Tout a été fini, dégradé. Dans 30 ans après sa mort, n'est-ce pas? Alors justement, le retour que le sage aurait pu prédire est arrivé. Maintenant, je suis 100% certain qu'Aristote n'a pas enseigné, il a enseigné des principes à Alexandre, il n'a pas enseigné que c'est une bonne chose d'aller faire la guerre et tout ça. Mais, donc, nonobstant tous les principes, toute la moralité que Alexandre a enseigné, que Aristote a enseigné à Alexandre, il a finalement fait la même bêtise que les hommes font depuis des millénaires, c'est-à-dire aller faire la guerre, et foutre la pagaille dans le pays, et puis finalement tout détruire. Alors, qu'est-ce qui va faire que ça change? Quand on parle d'établir la paix, on dit facilement que c'est une utopie. Mais quand on dit que la paix est utopique, je pense qu'on conçoit la chose un peu de la manière suivante. Pour avoir la paix, il faut convaincre les gens de ne plus faire la guerre. Donc il faut aller à Arafat, il faut aller à Sharon, il faut aller à tout le monde, enfin à tous ceux, à Hitler, à Staline, il faut aller aux gens qui font la guerre et raisonner avec eux et les convaincre qu'il ne faut pas faire la guerre, etc. Et on ne va jamais faire ça parce que ces gens-là font la guerre pour des raisons égoïstes et tant qu'ils ont ce qu'ils veulent en faisant la guerre, ils vont faire la guerre. On ne va jamais convaincre ces gens-là à arrêter de faire la guerre tant qu'eux, ils perçoivent que c'est dans leur intérêt de le faire, n'est-ce pas? Donc tous les arguments que vous voulez amener, même des vrais arguments, même des arguments tout à fait valables, vont pas les convaincre tant qu'eux, ils conçoivent que c'est dans leur intérêt. Donc, puisque l'homme est égoïste, voilà la chanson, puisque l'homme est égoïste, l'homme va toujours considérer que c'est dans son intérêt de faire la guerre, même si il se détruit en le faisant, parce que son égoïsme fait qu'il a toujours cette perception que il a un avantage à faire la guerre, si on a une chance de gagner ou si on a quelque chose à gagner à faire la guerre. Alors, une deuxième option, c'est évidemment que les gens apprennent à s'aimer les uns les autres. Mais encore une fois, si je dois aller convaincre les Palestiniens d'aimer les Israélites, et les Israélites à aimer les Palestiniens, un à un, je dois convaincre, ben, tu dois aimer les Palestiniens. Ben, ben. Alors, encore une fois, ce n'est pas un scénario qu'on croirait très raisonnable. Donc, ce n'est pas par l'éclatement spontané de la fraternité que la guerre va terminer. Ce n'est pas non plus en raisonnant avec les agresseurs qu'on va mettre fin à la guerre. Ça, c'est évident. Donc, tant et aussi longtemps que les gens conçoivent que, quand on parle de paix, que la paix, ça veut dire qu'il faut convaincre les gens à ne plus faire de guerre, ou qu'il faut s'attendre à un éclatement spontané de la fraternité universelle, qu'un beau jour, les gens vont se réveiller en ce moment, là où ils avaient la haine la veille. Ce n'est pas raisonnable, ce n'est pas ce qui va arriver. Nous avons 5000 années de l'histoire pour nous prouver que ça ne va pas arriver. Alors, si il y a une chance d'avoir une véritable paix, une paix dynamique, comment est-ce que ça pourrait arriver? Quel est un scénario qui est envisageable? Alors, là, ça fait entrer un petit peu la théorie Baha'i de l'histoire. Que l'histoire humaine n'est pas simplement un chaos d'événements. Excusez. L'histoire n'est pas simplement un chaos d'événements. Guerres, ici, enfin, etc. L'histoire humaine est un processus d'apprentissage. Il y a donc du progrès dans l'histoire. Du point de vue social, le progrès dans l'histoire peut être perçu comme l'organisation de la vie sociale de l'humanité à des échelles d'unité de plus en plus grandes. La famille, la tribu, la race, la ville-État, la nation, et maintenant nous sommes arrivés à une communauté de nations, si vous voulez. Alors donc, qu'on le veuille ou non, c'est un progrès, c'est-à-dire c'est la complexification. Ça imite un peu, si vous voulez, la même, l'évolution biologique, n'est-ce pas, qui est la complexification des êtres vivants, n'est-ce pas? Alors, c'est la même chose. Il a eu une évolution sociale et cette évolution est représentée par le fait de l'organisation de la société à des échelles d'unité de plus en plus grandes. Remarquons que l'organisation de la société à une échelle d'unité ne supprime pas les unités inférieures, ça les incorpore dans une unité plus grande. L'unité de la tribu, c'est l'unité des familles qui composent la tribu, n'est-ce pas, etc. L'unité de la race, ça ne supprime pas les tribus, mais ça unit les tribus dans une plus grande collectivité. Mais nous savons certainement que un des passages les plus importants dans cette évolution sociale, c'était le passage du niveau tribal au niveau plus élevé de l'État-ville ou de la nation. Pourquoi? Je vais tenter d'expliquer dans quelques mots. On sait maintenant que jusqu'au niveau de la tribu, toutes les relations humaines sont une à une. Sont personnels. Par exemple, les anthropologues ont trouvé que le nombre idéal d'une tribu semble être 500. C'est-à-dire quand une tribu croît au-delà de 500, ça a tendance à se diviser en deux tribus. Alors, ils se sont demandé, mais pourquoi ce nombre 500, ça revient dans toutes les cultures différentes, etc. Ils se sont mis à réfléchir avec un peu l'aide des ordinateurs, et ils ont vu la chose suivante. Il y a deux contraintes. Une contrainte qui force une certaine grandeur de tribu, et ça c'est le tabou contre l'inceste, n'est-ce pas? C'est-à-dire habituellement, on ne peut pas épouser peut-être jusqu'à son cousin germain, ou quelque chose comme ça, n'est-ce pas? Donc, une tribu prend une diversité génétique suffisante pour éviter l'inceste. Ok? Mais, la deuxième contrainte, limitative, cette contrainte, c'est que chaque personne dans la tribu doit connaître chaque autre personne dans la tribu. Parce que à ce niveau d'organisation, c'était la seule garantie, c'était la seule base de sécurité. C'est-à-dire, en connaissant une personne personnellement, vous connaissez ses propensions, ce qui l'embête, ce qui va l'enrager et tout ça. Vous savez comment traiter avec cette personne. Mais le nombre de personnes qu'on peut connaître personnellement dans une vie, c'est quand même limité, n'est-ce pas? Ça prend du temps de connaître une autre personne, etc. Alors, ils ont programmé un ordinateur avec ces deux contraintes, ils ont optimisé le système et l'ordinateur a crashé 500. Que c'est mathématiquement, c'est simplement une stabilité mathématique, avec certaines hypothèses, enfin assez raisonnables, que ces deux contraintes déterminent que, que le nombre maximal ou optimal d'un tribu, c'est 500. Donc, c'est le passage, par exemple, à la nation, où on voit une entité sociale qui coupe à travers les liens de sang et même les langages et tout ça, qui fait des unités. Et comment ça se fait? Ça se fait par des relations une plusieurs. C'est-à-dire, la base de la nation, c'est la capacité de l'individu de concevoir une relation entre lui et une entité abstraite qu'on appelle l'État. De se considérer comme citoyen d'une collectivité où il ne connaît pas la plupart des personnes. OK? Alors ça c'est très important. OK? Ça c'est très important. Ça c'était l'étape la plus importante dans l'évolution de la société humaine. C'était ce passage des relations une-une aux relations une-plusieurs. Le plus grand exemple, c'est par exemple l'islam. Au sommet de l'islam, et l'islam était vraiment une théocratie, c'était un état, nation religieuse, un état religieux. Au sommet de l'islam, mettons, vers l'an 1000, enfin même avant ça, l'an 800 ou 900, les musulmans avaient conquis toute la base de la Méditerranée. Alors, il était possible à un homme, il faut dire, pas une femme, mais il était possible à un homme d'aller du sud de l'Espagne, tout à travers la France, la Grèce, etc., jusqu'en Inde, en rencontrant seulement les étrangers personnels et en étant reçu partout comme un frère. Autrement dit, un musulman, en rencontrant pour la première fois un autre musulman, va faire plus de confiance à cette personne parce qu'il est musulman que dans une personne qu'il connaît être un voleur ou qu'il connaît personnellement à certaines propensions. Alors, tous les historiens, même les plus athées, sont unanimes pour dire que ça c'était, sur le plan social, le plus grand don de la religion à l'humanité. C'est-à-dire, quelle est la source de cette capacité chez l'individu de s'identifier à une collectivité abstraite et d'accepter comme ses frères toute personne faisant partie de cette collectivité? C'est la religion. C'est la religion qui a fait ça. Donc, si on dit, bon, les religions, ça vient, ça prêche des choses, mais ça ne change pas grand-chose, c'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout. Et des historiens, même, je dis, athées, sont tous d'accord que la capacité d'organiser la société à une base d'unité au niveau, par exemple, des pays, des États, nations que nous avons aujourd'hui, réside sur cette capacité chez l'individu de s'identifier à une collectivité abstraite. Et en même temps, cette capacité-là provient de la religion. Parce que c'est la religion qui crée justement le cadre d'authenticité, si vous voulez, qui permet aux gens d'avoir confiance dans ces liens invisibles parce que ce ne sont pas des liens visibles comme les liens de sang, de père à enfant et tout ça, comme dans la tribu, n'est-ce pas? Ce sont des liens, si c'est pour moi, merci, c'est gentil. Alors, mais maintenant, voici le hic, voici le hic. Ce même pouvoir, cette même capacité de s'identifier à une collectivité abstraite crée aussi un pouvoir qui peut être utilisé pour le mal aussi bien que pour le bien. C'est-à-dire, je peux avoir l'unité à l'intérieur d'une collectivité tout en ayant la désunion entre deux entités collectives. Autrement dit, tu peux avoir l'unité d'un pays, l'unité d'un autre pays, mais la guerre entre les deux pays. Donc, l'unité à une échelle sociale peut cohabiter avec la désunion à une plus grande échelle. Et c'est un peu ce que nous vivons aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est-à-dire, quel est l'état du monde actuel? C'est un mosaïque d'états-nations qui vivent des tensions entre elles, des tensions plus ou moins grandes selon le cas, mais ces tensions sont suffisantes qu'il y a, à n'importe quel moment, une guerre quelque part, au moins quelques guerres quelque part sur la Terre, n'est-ce pas, en fait. C'est-à-dire, la guerre est dans ce sens-là permanente. C'est un état permanent qui est là, ou constant, si vous voulez. Continue. Alors, si on veut parler de la paix mondiale, ça veut dire changer cet état de choses, créer une unité entre les nations, obtenir une situation où vous avez une mosaïque d'états-nations, mais qui sont plus ou moins en harmonie plutôt qu'en tension. Et où on n'a plus ces guerres. On n'a plus ces guerres. Alors, qu'est-ce qui pourrait amener une telle situation? Bon, il y a deux niveaux de réponse. À un niveau, il faut qu'on acquiert maintenant une troisième capacité. C'est la capacité des relations plusieurs. On a déjà fait au niveau de la famille, la tribu, les relations une à une, personnelles. Dans l'État-nation, on a les relations une plusieurs, n'est-ce pas? C'est-à-dire l'individu qui s'identifie à une collectivité. Et nous avons finalement le défi des relations plusieurs, c'est-à-dire établir des relations harmonieuses entre les collectivités. Pas simplement entre le citoyen et l'État dont il fait partie, il est un citoyen obéissant, et tout, etc. Maintenant, la puissance de cette capacité de s'identifier à une chose abstraite, telle la patrie, il faut quand même constater la puissance de la chose. Pensez par exemple à la Deuxième Guerre mondiale, horrible. Mais pensez que des millions de gens sont allés se battre pour une chose aussi abstraite que la patrie. C'est quand même étonnant si on y pense deux fois. C'est-à-dire, qu'est-ce que eux, ils avaient personnellement à gagner à aller, tuer ou se batailler sur les champs de bataille et tout ça, en fait. Qu'est-ce que l'avaient les États-Unis? Les Allemands n'allaient pas envahir les États-Unis, ça c'était évident, n'est-ce pas, etc. Bon, mais en fait, vous pouvez dire que c'est dans leurs intérêts et tout ça, mais je veux dire, du point de vue de l'individu, il fallait en fin de compte que des individus acceptent, que des millions de personnes acceptent de plein gré d'aller s'armer et aller s'exposer au danger de bataille, n'est-ce pas? Et au nom de quoi? Parce que leur maison, leur femme, leurs enfants étaient menacés. Parce que leur pays, leur patrie était menacée. Donc ça, c'est la puissance de cette identification avec une collectivité abstraite. Alors maintenant, qu'est-ce qui pourrait amener cette capacité de relations plusieurs? Je pense que c'est un processus, mais je pense que si on reprend l'analogie de l'histoire humaine comme un processus de développement, un peu comme le processus de développement par lequel un individu passe depuis son enfance, son adolescence, etc. Alors, nous pouvons voir que il y a des changements. On acquiert des capacités. Et le retour de nos actions, le temps de retour, si vous voulez, de nos actions, devient de plus en plus court. N'est-ce pas? Donc, maintenant, aujourd'hui, on n'a pas à attendre plusieurs générations pour voir le retour de nos actions. OK? On a le retour le lendemain. N'est-ce pas? Comme on a dit, celui qui crache dans le vent crache dans sa propre figure, n'est-ce pas? Les gens commencent à comprendre ça. Donc ce n'est pas un éclatement spontané de la fraternité universelle. Ce n'est pas non plus par un raisonnement rationnel que les gens disent, bon, il faut plus faire. Simplement, finalement, ils se font tellement mal en faisant la guerre qu'ils sont d'accord d'arrêter. Je donne comme un exemple de cela la France et l'Allemagne. OK? Ou la France et l'Angleterre, si vous voulez, mais prenons la France et l'Allemagne. Écoutez, pendant 1000 ans, OK, les Teutons et les Francs se battaient. OK? J'ai passé une année à Strasbourg, enfin, qui a basculé entre l'Allemagne et la France pendant à peu près 1000 ans, en fait. Oui, la ville de Strasbourg est à peu près aussi vieille que ça. Oh merde, ça ne fait rien. Ça... Non, ne faisons rien maintenant, ok? C'est juste de l'eau. Okay. Le tapis est à preuve de l'eau, ça n'a pas l'importance.
Juste mettre ça dessus.
Si vous voulez, oui.
Ok, continue. Juste mettre ça comme ça.
Ok. D'accord. Ok. Alors, donc pendant, si vous regardez l'histoire entre, par exemple, l'Allemagne et la France, enfin ce qu'on appelle aujourd'hui l'Allemagne et les Francs, c'était les Teutons et les Francs, etc. C'est rien que des guerres, c'est-à-dire, on produisait une génération d'hommes, n'est-ce pas, qui allaient s'entretuer sur les champs de bataille. On écrit des romans à leur sujet, etc. Ce sont des cavaliers, ce sont ceci, cela, bon. Et puis, on glorifie la chose. Et puis, les quelques restants retournent propager une autre génération qui va faire encore la même chose. Et ça continue, génération, génération, génération. Il a la guerre de 30 ans, la guerre de 10 ans, la guerre de 100 ans, enfin, il a toutes sortes de guerres, mais... Bon, appelez ça comme vous voulez, c'est la guerre continue, c'est la guerre génération après génération. Vous n'allez pas trouver une génération où il n'y avait pas de guerre. En Europe centrale, n'est-ce pas? Et le pire de toutes les guerres, le pire de toutes les guerres entre la France et l'Allemagne, c'était la Deuxième Guerre mondiale. Donc il y a 50 ans. Alors, qui en 1945, aurait pensé que l'Allemagne et la France pourraient faire la paix? Et non seulement la France et l'Allemagne ont fait la paix, mais aller là-bas en Europe, maintenant, il n'y a presque plus de frontières entre la France et l'Allemagne. OK? Les travailleurs ont le droit de travailler dans tous les pays, par exemple dans mon domaine, le domaine académique. La France, par exemple, a toujours été extrêmement chauvin sur la question des professeurs. C'était seulement les Français, les citoyens français qui avaient le droit de postuler pour des postes de professeurs en France. Et puis ça a été, cette sorte de choses-là a été abolie à peu près partout, sauf en France. Mais finalement, avec le traité de Maastricht et tout ça, en fait, la France a finalement abandonné cette restriction. Et maintenant, il a des professeurs allemands qui enseignent en France, ok, et des professeurs français qui enseignent en Allemagne, etc., etc. Et ça, à peine une génération après la plus grande guerre parmi toutes les guerres pendant 1000 ans entre la France et l'Allemagne. Alors, pourquoi c'est arrivé, ça? Si vous allez côtoyer les Français et les Allemands, vous n'allez pas les trouver infiniment plus sympathiques qu'avant la guerre. Okay? Ils sont gentils, mais pas à ce point-là plus gentils qu'ils pouvaient être il y a 50, 60 ans. Mais c'est simplement qu'enfin, quoi? Ils ont compris qu'ils n'avaient aucun intérêt à faire la guerre. Qu'ils n'avaient aucun intérêt à faire la guerre. Que les échanges commerciaux et la coopération économique étaient beaucoup plus profitables à tout le monde que la guerre. Alors, ils ont arrêté de faire la guerre. Regardez, si vous regardez l'histoire qui a amené à l'État, au traité de Maastricht et tout ça, ça a commencé avec Jean Monnet, n'est-ce pas? Enfin, certains, peut-être vous connaissez ce nom-là, qui, juste dans les années 50, a lancé le marché commun en Europe, n'est-ce pas? Ça a commencé avec des petits échanges entre les différents pays et tout ça. Et à ce moment-là, De Gaulle, qui était le président en France, était contre cette chose-là. C'est-à-dire, il faisait tout pour empêcher l'unité de l'Europe. Pour ses propres raisons, parce qu'il avait cette notion de gloire de la France et tout ça. Je vais entrer dans tous ces détails, mais tout ce que je veux dire, c'est que il n'avait pas du tout un climat favorable, il n'avait pas du tout des gens qui disaient maintenant il faut faire la paix avec tout le monde, etc., il faut avoir des échanges commerciaux. C'était quelques personnes qui avançaient ça. Eux, ils avaient déjà la vision de ce qu'ils appelaient un États-Unis d'Europe. Mais ils n'osaient pas parler ouvertement de ça parce que ça faisait peur à trop de monde, n'est-ce pas? Donc ils se disaient, on fait juste faire des échanges commerciaux, on va voir comment ça va, je pense que ça va nous aider, etc. Puis petit à petit, ben, c'est bien, tout le monde en profite, on fait encore un pas de plus, encore un pas de plus. Et voilà, vous avez un Parlement européen, etc. Et puis finalement, vous avez le traité de Maastricht, et qui, à toute fin pratique, efface la frontière entre les pays. N'est-ce pas? Et ça, donc, pensez à la chose, je m'excuse, mais pensez à la chose suivante. Ça s'est fait, ben, mettons en 50 ans. Mais c'était vraiment un peu moins que ça, mettons 40 ans. Ça a pris 40 ans pour faire ça. Par rapport à au moins 1000, sinon 2000 ans de guerre continue, okay, qui a précédé ça. Alors vous pouvez dire, vous aurez pu dire, mais sûrement ça va prendre au moins aussi longtemps pour faire la paix que ça a fait pour faire la guerre, mais non, ça a pris 40 ans. Donc, ça nous montre d'abord que la paix est possible, que la paix peut arriver, que la paix peut être dynamique, parce que c'est basé sur des échanges commerciaux et des échanges culturels et tout, et tout, et tout, que ce n'est pas simplement l'absence de guerre, mais c'est vraiment des interactions actives, en fait, productives. Que ça peut venir aussitôt que les gens se mettent d'accord pour le faire. C'est-à-dire, je vais juste faire ce point-là encore un peu plus, et puis j'ai terminé. Le passé, nous ne pouvons pas le changer. Nous sommes tous d'accord avec ça. Le passé, c'est le passé. Toutes ces histoires de guerre entre la France et l'Allemagne, ça demeure à tout jamais. Pendant toute l'éternité, dans tous les mondes de Dieu, il sera vrai que les Blancs, au sud des États-Unis, d'où je viens, ont fait l'esclavage des Noirs. Rien que les Blancs peuvent faire maintenant va changer cette histoire. Cette histoire est là pour toujours. Le passé est toujours là. Ça ne change pas. L'avenir, nous avons très peu de contrôle sur l'avenir. Nous pouvons faire des projets, mais il y a toujours des circonstances qui peuvent venir à l'encontre de nos projets. Le seul contrôle que nous avons, véritable, c'est sur nos actions au moment présent. Alors, si on veut un avenir différent de notre passé, il y a une seule façon de l'avoir. C'est de changer notre façon de nous comporter au moment présent. Est-ce que vous voyez le même de faille dans ce logique? La seule façon d'avoir un futur, un avenir différent de notre passé, c'est de changer notre façon d'agir dans le présent. Tant et aussi longtemps qu'on ne fait pas ça, l'avenir va être simplement une réplique du passé. Parce que si on continue à agir dans le moment présent comme on agit dans le passé, on va continuer à faire la même chose. Donc, quand n'importe quelle deux personnes se rencontrent, ces personnes ont un choix. Ils ont le choix à savoir sur quelle base ils vont établir leur relation. Et peu importe le passé de leur relation, ils ont à tout moment la liberté de choix de changer complètement l'avenir de leur relation en changeant leur façon de se comporter. Alors, le mythe qu'il faut aller redresser tous les torts du passé, c'est un mythe. On ne peut rien changer du passé. On peut apprendre du passé, mais en fin de compte, à tout moment, on a le choix de changer notre avenir. Ce n'est pas une chose si incroyable que ça. Nous avons à tout moment ce choix-là. Et donc, si on fait d'autres choix, c'est nous les responsables. Mais nous avons maintenant assez d'exemples pour montrer que la chose est possible, que la chose est pratique, et ça n'exige même pas, comme je dis, la grande philosophie. Ça exige tout simplement que les gens se rendent compte, en se cognant le nez suffisamment de fois, qu'il n'y a aucun avantage à quiconque à faire la guerre. Moi, je pense que le 21e siècle va voir la réalisation de cela. Je pense que nous sommes en train de voir la réalisation de cela, qu'il ne coulera pas, à mon avis, un autre 100 ans avant que toutes les nations se rendent à cette évidence. En tout cas, voilà.